Naam. Ensuite, donc on passe au hadith suivant. Et quel hadith? Toujours d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ata al-maqbara faqal, assalamu alaykum, dar qawmin mu'minin, wa inna insha'allahu bikum lahiqoon, وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله فإنهم يأتون غرا محجنين من الوضوء وأنا فرطهم عن الحوض. رواه مسلم. لا سو حديث إنه ici c'est le numéro 249 de Sahih Muslim. Et sinon, c'est le hadith 1029 de Riyad Salihin. 1029 de Riyad Salihin dans le chapitre Les mérites des ablutions. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu au cimetière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu au cimetière. Et comment il s'appelle le cimetière des gens de Médine? Al-Baqi' Al-Baqi' Al-Gharqad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Assalamu alaykum, que le salam soit sur vous. Et ici c'est quoi le salam? C'est-à-dire quoi le salam? Assalam Ma'khoud min as-salama. Ici le mot salam, il vient du mot salam, qui est la préservation, le fait d'être préservé. Le fait d'être préservé. Au début, les sahabi, dans la prière, qu'est-ce qu'ils disaient? Dans le tahiyyat, ils disaient Assalamu ala Allah. Que le salam soit sur Allah. Et le prophète sallam leur a dit La taqulu hadha, ne dites pas cela. Inna Allah huwa salam. Allah azza wa jal, il est Assalam. Et pour comprendre cela, il est important de savoir que assalam, on a dit ma'khoud min assalama. C'est-à-dire que quand tu dis assalamu alaykum, ici assalam c'est un dua, c'est une invocation. Quand je te regarde, je te dis assalamu alayk. Je demande à Allah de te préserver contre toutes les mauvaises choses. Je demande à Allah de te préserver contre toutes les mauvaises choses. Donc quand tu dis assalamu alayk, en fait, tu demandes à Allah de te préserver contre tout. Les savants disent, c'est quoi les mauvaises choses? Les mauvaises choses de cette dunya, les mauvaises choses de l'akhira. Donc, quand quelqu'un te dit assalamu alaykum, assalamu alayka, assalamu alayki, etc. Quand la personne te dit cela, il demande à Allah azza wa jal de te préserver contre quoi? Contre le châtiment de la tombe. Contre le fait de ne pas réussir à répondre aux questions dans la tombe. Contre le avoir un jugement difficile. Contre l'enfer, contre le chat. Subhanallah. Et il demande à Allah Azza wa Jal de te préserver contre les maux de cette dunya. Contre la maladie, contre le fait d'avoir des enfants égarés, contre le fait d'avoir une épouse désobéissante ou un mari désobéissant. Subhanallah. Assalamu alaykum. L'importance du salam. Tu demandes à Allah de te préserver contre toute mauvaise chose. Donc là, quand les sahabas disaient Assalamu ala Allah, tu ne peux pas invoquer pour Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est déjà assalam. Allah Azza wa Jal, il est déjà préservé de toute chose. Chose, subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jal, il n'a aucun. Yani, il n'est touché par aucun mal. Subhanahu wa ta'ala. Mais il leur a dit, bel qulu. Mais dites plutôt, at-tahiyyatu lillah. Wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. وعلى عباد الله الصالحين. Et ensuite le prophète sallam leur a dit mais lorsque vous dites cela et lorsque vous dites cela vous allez invoquer pour tous ceux qui se trouvent dans les cieux et dans la terre. Ça veut dire subhanallah al-azim que le musulman chaque prière qu'il fait, il invoque pour Jibril, Mikaïl, et Sarafil, pour tous les anges. Et en plus, il invoque pour tous les prophètes, pour tous les compagnons des prophètes. Ben, allez dire ça à n'importe quel chrétien, que dans nos prières, dans toutes nos prières, on invoque pour les compagnons d'Issa, pour les apôtres de Issa, alayhi salam. On invoque pour les 70 compagnons de Moussa, alayhi salam. On invoque pour les prophètes, pour les compagnons des prophètes. Subhanallah al-Azim. Assalamu alayna, que le salam soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah pieux. Et ici le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il allait au cimetière, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, assalamu alaykum dar qawmin mu'minin. Que le salam soit sur vous, que le salam soit sur vous, demeure de gens croyants. Wa inna insha'allahu bikum lahiqoon. Nous devons, insha'allah, si Allah le veut, vous rejoindre. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme j'aurais bien voulu voir nos frères. Comme j'aurais bien voulu voir nos frères aller dans cette vie. Et les gens dirent, mais nous ne sommes pas tes frères. Les compagnons ont dit, mais nous sommes tes frères. Il leur a dit, là, antum ashabi, non, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes compagnons. Et ensuite la question, regardez la question des sahaba. Et ils ont dit, donc, avant qu'ils posent, bah, qui sont tes frères? Le prophète Sam leur répond, Annie, avant qu'ils posent cette question, il leur dit, et mes frères sont ceux qui viendront après. Annie, dans le sens, qui ont cru en moi et qui ne m'ont jamais vu. Et là, ils ont dit, bah, comment tu vas les reconnaître? Comment reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux, marqués de blanc sur le front et sur les jambes? Marqués de blanc, yani, ghurran muhajjala, comme on le verra ici, ces deux termes. Marqués de blanc sur le front, imagine, yani, tu possèdes un troupeau. Que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux marqués de blanc sur le front et sur les jambes, au milieu d'autres chevaux complètement noirs? Allez-vous reconnaître, yani, va-t-il reconnaître, sera-t-il capable de reconnaître ses propres chevaux? Ils dirent, bien sûr que oui. Et là, le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, ils viendront au jour de la résurrection, la tête et les membres tout blancs du fait de leurs ablutions. Et c'est moi qui leur ouvrirai la route vers le Hawd, vers le bassin. Subhanallah. Parmi les grands mérites de l'Ouadou. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, « Wa hadha al-hadith alladhi awradahu an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi fadl al-Wudu. » Donc, ce hadith que l'imam Nawawi, rahimahullah, a rapporté ou a évoqué dans son, yani dans son chapitre, les mérites de l'Wudu, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est allé au cimetière. Et il a dit, assalamu alaykum dar qawmin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqoon. Et il a dit, que le salam soit sur vous, demeure de gens croyants, nous devons insha'allah vous rejoindre. Au début, sachez, tout au début, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de rendre visite au cimetière. Et ça, c'était pas spécifique aux femmes. Même les hommes étaient interdits de rendre visite au cimetière. Pourquoi? Pourquoi au début c'était interdit de rendre visite au cimetière et qu'ensuite l'interdiction a été abrogée par le prophète alayhi salatu salam?
À propos de l'alimentation.
Est-ce que c'est en rapport avec l'adoration?
Non.
Dans les cimetières.
En fait. Exactement. Les musulmans, ils étaient... Yani, ils venaient de quitter à peine le shirk. Ils venaient à peine quitter, yani, le shirk, l'associationnisme, le polythéisme, pardon. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur que leur cœur ne s'accroche que leur cœur ne s'accroche et qu'ils soient éprouvés par cela. Donc ici, c'est douzara'a. Ici, le musulman, il ferme les portes. Et il a interdit de visiter les cimetières. Et une fois que la foi est ancrée dans leur cœur, à ce moment-là, il leur a ordonné de rendre visite au cimetière. Il leur a dit, « Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. » Je vous ai certes interdit de visiter les cimetières. Fazuruha. Visitez-les, yani à présent. Fa innaha, et c'est quoi le plus grand bénéfice de visiter un cimetière? Tudhakkirul maut. Car elle te rappelle la mort. Et dans une autre version, tudhakkirul akhira, elle te rappelle l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il a cité le grand bienfait et le grand bénéfice de visiter les cimetières. C'est que celui qui visite, la personne qui visite les cimetières, subhanallah al-azim, elle prend conscience qu'aujourd'hui elle est au-dessus de la terre. Et que peut-être que ce soir elle sera en dessous de la terre. Comme ceux parmi lesquels tu es en train de voir, subhanallah. Aujourd'hui ils sont sur la terre, ala dhahri al-ard, wa ghadan fi batniha. Ils seront dedans. وَلَا يَدْرِي مَتَى يَكُونُ هَذَا. Et la personne ne sait pas. La personne ne sait pas quand est-ce que cela va se produire. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Peut-être qu'il va se lever sur la terre et qu'il va se coucher sous la terre. Chose subhanallah azim. Et ça, si la personne le matin, elle pense à ça, tu t'es levé, tu es sous la terre et tu t'es couché. À l'heure où les gens vont se coucher, toi, tu seras déjà enterré. Regarde, subhanallah, al-azim. Et la même chose. Donc ici, le contraire, l'inverse, c'est peut-être la personne, elle va passer la nuit sous la terre et elle va arriver le jour, il sera déjà sous la terre. Non. Donc là, on peut bien voir l'importance de visiter les cimetières parce que cela nous rappelle de la mort. Parce que cela nous rappelle de la mort. Et lorsque la personne, elle marche dans le cimetière, il voit qui autour de lui? Son père, son frère, son grand-père, ses grands-parents, il y a des gens qu'il a connus. Et ça, subhanallah al-azim, ça fait encore plus réfléchir. C'est pas comme si tu voyais des gens que tu connaissais pas, non. Là, subhanallah, tu vois des gens que tu as connus, un tel, bah, regarde, subhanallah, c'était mon voisin, et lui, il priait avec nous à la mosquée, et lui, c'était un tel, et lui, c'était un tel. C'est des gens qu'ils ont vécu, comme toi, tu es en train de vivre. Et cela est un rappel énorme. Mais que dire? Yani, et subhanallah, et de se dire, hier ils étaient comme toi, ils buvaient, ils mangeaient, ils s'amusaient, ils étaient comme toi, ils faisaient, ils prenaient du plaisir à ce que toi tu prends aujourd'hui, et aujourd'hui ils sont coupés de toute action. Aujourd'hui ils sont coupés de toute action dans leur tombe. Et il se dit peut-être l'année dernière encore, ils étaient là, ils ont... Yani, il profitait de la vie, etc. Et regarde, c'est pour ça que le vrai profit de la vie, c'est en préparant ta mort. C'est en préparant ta mort. Donc le musulman, lorsqu'il rend visite au cimetière, il prend conscience que celui qui fait du bien, il trouvera le bien. Et celui qui fait du mal, yani, il trouvera ce qu'il a semé. C'est pour cela qu'il est important de sortir et de visiter les cimetières. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, fazuruha, yani visitez-les, yani sortez vers les cimetières, regardez comment Allah azza wa jalla a rendu ces gens. Yani hier ils étaient avec nous, aujourd'hui ils sont dans cette situation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme dans ce hadith, il rendait visite aux cimetières. Regardez le début du hadith. Atal maqbara. Même lui, il a été au cimetière du Baqi'. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a salam. Il a passé le salam aux gens qui sont dans la tombe. Et ici, le cheikh, il dit, ce qui est apparent du hadith, c'est que les morts entendent. C'est que les morts entendent. Il dit, puisque il n'y a aucune faïda, Yani à passer le salam à quelqu'un qu'il ne t'entend pas. لكنهم لا يستجيبون. Et ça c'est la règle importante. Ils t'entendent certes, comme c'est l'avis de certains savants. Ils t'entendent, mais ils ne te répondent pas. Mais ils ne te répondent pas. Ils sont incapables de te répondre parce qu'ils sont dans leur tombe. Donc, quand tu rends visite à un cimetière, assalamu alaykum, tu passes le salam. Assalamu alaykum, dara qawmin mu'minin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqoun. Il y a plusieurs versions. Lahiqoun, lahiqoun. Yani, cette invocation. Yani, tu trouves plusieurs versions de cette invocation. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم et le professeur Sam a dit vrai non وإن إن شاء الله بكم لاحقون et certes si Allah عز وجل le veut nous vous rejoindrons car il n'y a pas une personne vivante sans qu'il ne va goûter à la mort et cela par la permission d'Allah عز وجل. Ensuite, une question qui se pose ici. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la vocation, il a cité « Incha'Allah » ?« Wa inna incha'Allahu bikum lahiqoun » Et si Allah le veut, nous, vous rejoindrons. Alors que, on va tous mourir. Et les savants, ils ont divergé quant à cette parole. Ils ont divergé quant à cette parole. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de doute. والصحيح انه لا اشكال في هذا et ce qu'il dit le cheikh il dit en fait il y a ce qui est venu de manière authentique c'est qu'il y a aucun mal à cette parole. Il dit pourquoi? Car ici le fait de dire inshallah ici c'est dans le sens اننا اذا لحقنا بكم فانما نلحق بمشيئه الله, c'est que lorsque nous allons vous rejoindre ça a été avec la permission et la volonté d'Allah azza wa jalla, c'est lui qui décide quand est-ce que tu vas mourir, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, où et comment tu vas mourir. Car l'ordre est le sien. Et la royauté est la sienne. C'est lui qui gère tout, il contrôle tout, il sait tout, il fait tout. Quand il le décide, cela se produit. Il décide ce qu'il veut à qui il veut. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez ce que le cheikh dit dans le verset 27 de la Sourate Al-Fath. La sourate, la victoire. Sourate, Fath 48, ça 48, le Fath. Allah Azza wa Jalla dit, « La tadkhulunna al-masjid al-haram, incha'Allah aminin. » Allah Azza wa Jalla dit, « La tadkhulun » Et pour celui qui étudie la langue arabe, « La, la tadkhulunna al-masjid al-haram, incha'Allah. » Yani, « Ma'a annahum sayadkhulun » Mais certes, ils vont rentrer. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite ce verset, la, la tête khulun, c'est quoi ce lame ici? Comment on l'appelle dans le nahou? La?
La
tête khulun. Ici, c'est pas la mutawkid. La. La tête khulun. La mulqasam. La mulqasam. Naam, Allah Azza wa Jal, c'est. Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par cela. La tadkhulun, Allah Azza wa Jalla jure. Et ce nun ici, comment on l'appelle? Nun tawkid. Nun tawkid. À la base, le verbe c'est tadkhulu. Tadkhuluna. À la base, c'est tadkhuluna. Vous allez rentrer. Mais ici, Allah Azza wa Jalla, il a mis le lam avant. La tadkhulun. Et le nun tawkid, un nun à la fin qui vient appuyer. Qui vient appuyer ce que tu as dit. Et là, on voit bien l'importance. L'importance, les frères. Pour comprendre le Coran. Pour comprendre la sunna du prophète, ça s'aime apprendre la langue arabe. Wallahi, mets-toi quelques années dans ta vie pour la langue arabe. La langue arabe, ça s'étudie pas toute une vie. Sauf bien sûr, alhamdoulilah, toujours des choses à apprendre. Mais ce qui nous est demandé pour nous, c'est pas de rentrer dans une étude, faire 50 livres de nahou, etc. C'est pas ça qui nous est demandé. Fais un livre, deux livres, trois livres, histoire que tu as la base pour pouvoir comprendre. Ensuite, tu passes. Tu fais du fiqh, tu fais du tafsir. Parce que la langue arabe, c'est une... Ce n'est pas une finalité en soi. La langue arabe, c'est juste un moyen d'acquérir les sciences qui, eux, sont des objectifs, comme la aqida, le tafsir, le fiqh, etc. D'accord? Donc ça, c'est important de se motiver à comprendre la langue arabe, parce que là, tu vas goûter, yani, à la science bifadlillah tabaraka wa ta'ala. Na'am la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah. Aminin. Allah azza wa jalla leur a juré. Il a yani qu'ils allaient rentrer à la Mecque. Et ensuite il dit insha Allah, si Allah le veut. Donc regarde subhanallah. Allah azza wa jalla l'affirme. Et ensuite il dit yani insha Allah. Yani avec la volonté d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc là, il n'y a aucun doute qu'ils vont rentrer. Mais quand est-ce qu'ils vont rentrer? Quand Allah il va le décider. Et ça, ça s'est produit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu le pacte de l'Hudaybiyah. Et là aussi, on voit l'importance de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, wallahi, les frères, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des musulmans, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'ils ont vu dans le film Risala. C'est ce qu'ils ont vu dans le film Risala. Et ce film est bourré d'erreurs. Et ce n'est pas des erreurs. Ce film, il a été fait avec l'aide de qui? Des Rawafid. Des Rawafid, des Shia, qui détestent la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rentré dans ce film des choses, a'adhan Allahu wa yakum, très graves. À titre d'exemple, ce n'est pas le sujet, mais ça peut être un sujet à faire. Subhanallah. Qui, je vous pose la question, qui a ordonné, qui a demandé à Al-Wahshi de tuer Hamza? C'est qui?
C'est une femme.
Dans le film? C'est Hind dans le film. A'ouzou billah. Et ça c'est... Hind c'est qui Hind? La femme d'Abu Sofyan. Abu Sofyan c'est qui? L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux comme ils détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hind elle a demandé, ils disent même qu'elle a mangé son cœur. Ah subhanallah. Et là les musulmans ils sont pas de problème, ça nous dérange pas, ça nous passe pas de aucun problème. Alors que cette histoire, le Bukhari, un hadith dans le Bukhari qui prouve que na'am, yani c'est autre que Hind. Et ça c'est Rawafid. Ça c'est Rawafid. Rawafid, la'natullahi alayhim, qu'Allah Azza wa Jalla les maudisse. Qu'ils ont entré cela pour que les gens, pour enseigner aux gens le fait de détester la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ici l'importance de connaître la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Non, mais également dans le film tu vois pas Ali mais tu vois les autres. Tu vois les compagnons avec des petits boucs. Subhanallah al-Azim. Donc les gens, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens, ça finit à eux. Pour eux, les compagnons, ils étaient comme ça.
Et la femme,
Allah Moustahan.
C'est qui l'a tué?
Après, j'ai pas vu spécialement. C'est trop.
Le frère, il pose la question par rapport au livre. Dans Sera, Rahiq al-Makhtoum, c'est un très bon livre de lecteur qui a acheté. Donc faire attention à la traduction. Attention à la traduction. Également, tu as un bon livre de Mohamed ibn Abdel Wahhab, Rahimallah, par rapport à cela, sur la vie du prophète, mais même traduit en français. Mais après, Sera al-Nabawiya, écoute, il y a beaucoup de Doros. Et là, la même chose. Ça, un livre, c'est bien, c'est important, mais ça, il faut écouter des cours. Ou que le cheikh ou la personne, elle va t'expliquer, elle va te donner. Parce que ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle fiqh sira. C'est le fait de comprendre la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord les frères, donc on voit bien. Donc on revient à notre sujet. Pendant le pacte de l'Hudaybiyah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit aux compagnons, et le verset, il était déjà descendu. Il avait dit aux compagnons, on va faire la umrah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont dit, non, vous revenez l'année prochaine. Les compagnons, ils étaient tellement déçus que le prophète Sassam, il leur a dit, rentrez, rasez-vous, égorgez votre bête. Et les compagnons, tellement ils étaient déçus, qu'il n'y en a pas un qui a bougé. Et le prophète Sassam, ça l'a attristé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé, il est rentré et il a demandé conseil à sa femme. Il y a l'importance. L'importance de demander conseil à son épouse ou à ses épouses. Et là, elle lui a dit, tu ne parles à personne. Tu sors, tu rases tes cheveux toi-même. et tu es gauche. Et quand ils ont vu que le prophète n'a pas parlé et qu'il s'est rasé, là ils ont compris la gravité de ce qu'il avait fait. Et comme dans certaines versions du hadith, chacun il se coupait en même, jusqu'il se coupait, il saignait, subhanallah, le sang de leur crâne, tellement chacun il voulait obéir à l'ordre du prophète alayhi salam. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit? Alasta, il lui a dit, ne nous as-tu pas dit que nous allons rentrer à Mecca? Subhanallah al-Azim. Ne nous a pas entendu que nous allons rentrer à Mecca et que nous allons faire le tawaf? Qu'est-ce qu'a répondu le prophète? Ben là, bien sûr. Il a dit, lakin hal haddadtu laka hadha al-aam? Est-ce que je t'ai dit que ça allait être cette année? Est-ce que je t'ai dit que ça allait être cette année? Et ensuite, l'année d'après, ils sont rentrés en sécurité. C'était la conquête de la Mecque et ils ont fait le tawaf. Donc ici, regardez le terme, Inch'Allah. Certaines personnes en y peuvent mal comprendre ce terme, mais ici, on l'a expliqué. D'accord? Donc ici, ce n'est pas Inch'Allah dans le sens, est-ce que c'est une hésitation? Est-ce que ça va se produire ou pas? Non, ça va se produire. Ça va se produire. Comme la mort, ça va se produire. On va vous rejoindre. On va mourir. Quand? Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut? Comment? Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut? Où? Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'aura décidé?